Radio G.
101.5 FM.
Pierre Benoît présente la chronique de Clic Clac Topette. En 2020, le centre commercial Fleur d'Eau fête ses 15 ans, et un succès qui ne se dément pas depuis 2005. Pourtant, la route a été longue avant de redonner vie à cette partie d'Angers coincée entre les rues Baudrière et Plantagenêt. Dans la mémoire collective angevine, avant Fleur d'Eau, ce sont les Halles, un petit centre commercial des années 80 qui peinait à attirer l'activité marchande. Encore avant les Halles, c'est un trou béant, un parking plein air et puis une gare routière. En fait, il faut remonter jusqu'en 1870 pour retrouver une activité commerçante digne de ce nom autour de République. Sous l'impulsion d'un génie et pionnier du marketing, Monsieur Rémy Chanlouineau, un gigantesque palais des marchands sort progressivement de terre à l'emplacement actuel de Fleur d'Eau. C'est bien simple, Chanlouineau introduit sans le savoir les nouveaux modes de consommation du XXe siècle. Pourquoi ce palais des marchands n'a pas survécu aux décennies? Alors même qu'il portait en lui les gènes de la société de consommation d'après-guerre. Délocalisation? Hiérarchie incompétente? Non. Il est 12h55 cet après-midi du 21 novembre 1936. Et Monsieur Roy aperçoit une lueur rougeâtre à l'intérieur du palais. Il aura tout juste le temps de prévenir les pompiers, mais déjà la galerie part en fumée. Un drame qui va laisser une empreinte forte dans les mémoires collectives angevines, mais également un énorme trou dans le paysage urbain d'Angers et que seule Fleur d'Eau actuellement saura combler. Découvrez avec Clic Clac Topette l'incroyable aventure du Palais des Marchands d'Angers et comment la reconstruction d'une activité commerçante en lieu et place des Poutrelles noircies aura été longue et lente entre les rues Baudrière et Plantagenêt.
Bonjour, moi c'est Clic Clac. Je suis curieux de tout et j'aime l'aventure. Un jour, dans le grenier, j'ai découvert une très vieille carte postale en noir et blanc. Je l'ai retournée et en lisant ce qui était écrit à l'arrière, c'est comme si j'avais voyagé dans le temps. Depuis, je prends ma bicyclette, mon appareil photo et j'explore l'Anjou pour découvrir des lieux et des histoires surprenantes pour créer mes propres cartes postales. Je prends tellement de photos que tous les copains m'appellent clic-clac. Ils disent que c'est le bruit de mon appareil photo. Du coup, moi je dis que c'est aussi le bruit du temps et des histoires qui passent. Aujourd'hui, direction les Halles d'Angers.
C'est Noël à Angers, et comme tous les ans, le marché s'installe place du ralliement et rue Le Neubeu, avec tous ses chalets et ses étals de marchands venus des quatre coins de la France pour vendre leurs produits. Clic-clac adore déambuler en ville à cette période. Il aime l'ambiance des fêtes, et aussi ce type de marché, qui peut rappeler les foires des siècles passés. Il relève un peu le béret qui tombe sur ses yeux, pour mieux regarder les petites bouteilles de Cointreau, les Quernons d'Ardoise, ou d'autres chocolateries de chez Benoît. Mais alors qu'il marche et qu'il porte, dans l'objectif de son appareil photo, les décorations du Grand Théâtre, son regard s'arrête net sur un chalet rempli de vieilles photos. Il s'approche de la vendeuse.
Bonjour madame, c'est quoi toutes ces vieilles photos?
Bonjour, tu ne reconnais pas?
Ah mais, on dirait la place du ralliement.
Oui, et là c'est le boulevard Foch, qui s'appelait encore boulevard de Saumur. Si tu aimes les photos d'antan, c'est le cadeau idéal. On en reproduit pour tous les formats.
Est-ce que vous avez une photo des anciennes maisons du Quéligny?
Tu veux dire celle qu'il y avait avant les Oies-sur-Berge?
C'est ça!
Pendant qu'il regarde le catalogue des photos d'Angers avant, Clic-Clac se fige devant l'une d'entre elles.
Je comprends pas, madame. C'est quoi cette photo?
Fais-moi voir. Ah, là, c'est Fleur d'Eau dans les années 70.
Bah, y a rien du tout! C'est juste un énorme vide entre la cathédrale et la Maine.
Eh bien oui, le centre commercial que tu connais aujourd'hui ne date que de 2005.
2005? Mais c'est très récent en fait!
Oui, et avant il y avait un autre centre commercial qui s'appelait les Halles.
Dans les années d'après-guerre, la politique est d'ouvrir des artères pénétrantes en ville pour faciliter l'accès des automobilistes au commerce et autres échoppes du centre. C'est la période du tout automobile. À Angers, l'extension urbaine autour du noyau de la ville permet de créer de larges voies de circulation pour absorber le trafic. Mais en plein centre, il faut encore élargir et faire de la place. C'est pour ça qu'à partir des années 70, les maisons du Quéligny commencent à être détruites le long de la Maine pour accueillir les futures voies sur berge le long du château. Ce qui permettra à tous les automobilistes en transit par Angers d'admirer la magnifique demeure du roi René. Autour de la place de la République, les vieilles halles marchandes sont détruites. Ce bâtiment permettait depuis 1870 d'accueillir les étals des marchands dans un espace couvert. Mais les pratiques ayant changé et l'ouvrage se faisant vieux, il est rasé pour créer un immense vide entre les rues Baudrière et Plantagenêt, qui va servir de parking le long des voies sur berge et bientôt de gare routière. Comme disent les Angevins, c'était le trou de République. En 1984, une tentative de centre commercial voit le jour et va reprendre le nom de Halles en mémoire de celle détruite quelques mètres plus bas, 15 ans auparavant. Les Halles de 1984 connaissent un beau succès, mais éphémère, car la configuration du site, presque enterré dans la pente avec un couloir d'accès intérieur tourné sur lui-même, le rend peu commode pour les consommateurs, qui préfèrent largement plus se rendre dans les immenses centres commerciaux Saint-Serge ou Lac de Maine. En 2004, les Halles sont détruites et Fleur d'eau sort de terre en seulement une année.
Et pourquoi Fleur d'eau fonctionne mieux que les Halles ?
Eh bien parce que Fleur d'eau c'est un bâtiment à la fois moderne, mais aussi orienté vers les rues et les passants. Avec l'arrivée en plus de plusieurs enseignes plutôt inédites à Angers, qui y sont restées depuis.
H&M et Monoprix !
C'est ça, H&M et Monoprix.
Et ça, c'est quoi alors ?
Clic-clac tient entre ses mains une affiche photo sur laquelle on aperçoit un bâtiment en ruine le long de la rue Saint-Lô, avec la cathédrale Saint-Maurice en fond.
Eh bien, pour être franche, je ne sais pas du tout.
On dirait qu'il y a eu un incendie. C'est marqué « Palais des marchands ».
L'incendie du Palais des marchands. Oui, c'est vrai que ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis. Il me semble qu'il y a un romancier local qui s'appelle Célestin Moreau, et qui a écrit une enquête policière sur l'incendie du bazar angevin. Je l'ai vu encore à midi à la Grappe d'Or devant Fleur d'eau.
Célestin Moreau ? La Grappe d'Or ? Je fais lui poser des questions alors. Merci madame !
Et Clic-Clac enfourche son vélo, agrippe son béret et descend la chaussée Saint-Pierre à toute vitesse en esquivant les passants qui font leurs achats de Noël. Clic-Clac s'engage dans le café de la Grappe d'Or. Il aime beaucoup cet endroit pour son style Belle Époque et s'arrête parfois ici boire une boisson chaude.
Je vais prendre un chocolat s'il vous plaît.
Il ne lui faut pas longtemps pour repérer le romancier qui est en train d'écrire dans le fond de la salle.
Bonjour, est-ce que vous êtes Célestin Moreau, l'écrivain ?
Comme tu peux le voir, oui, je suis en train d'écrire.
Je vais pas vous déranger très longtemps. Je m'appelle Clic-Clac et j'aimerais en savoir plus sur le palais des marchands d'Angers.
Le bazar d'Angers, le sujet central de mon prochain roman. Qu'aimerais-tu savoir ?
Eh bien, j'aimerais comprendre ce que c'était.
Je pense que c'est possible de t'expliquer ça sans trop dévoiler l'intrigue de mon livre, oui. Tout commence en 1857 quand un certain Rémy Chanlouineau rachète une petite affaire du nom de Palais des Marchands dans la cour d'honneur de l'ancien tribunal de commerce qui se trouve là depuis 1622. L'entreprise est modeste et rien ne semble la destiner à devenir la plus importante zone de vente d'Angers. Chanlouineau commence par proposer des nouveautés à ses clients et le succès est aussi immédiat qu'inattendu. Monsieur Chanlouineau comprend qu'un filon est encore inexploité à Angers et décide de le suivre. Alors il s'associe avec Louis Vollery et un autre Rémy, Monsieur Mondin. En même pas 3 ans, le chiffre d'affaires bondit et une immense galerie marchande est construite pour accueillir les nouveaux commerçants qui se font de plus en plus nombreux. Le Palais des Marchands englobe désormais tout l'ancien tribunal de commerce, en gros l'actuelle Fleur d'eau, ce qui pour l'époque était gigantesque.
Bénéfices réduits, prix défiant toute concurrence, galerie avec vitrine sur commerce, électricité, manufacture sur place des meubles, publicité et événements marketing, Chanlouineau introduit littéralement à Angers et dans le Maine-et-Loire les nouveaux modes de consommation du XXe siècle. Le Palais des Marchands, en plus d'être un magnifique succès commercial, est aussi un immense succès populaire. La population angevine et un peu bourgeoise de 1900 porte fièrement son bazar de la rue Baudrière. Le palais brille et scintille crânement bien avant l'implantation des nouvelles galeries, actuelles Galeries Lafayette, qui seront inaugurées qu'en 1901.
Pourquoi a-t-il été détruit alors ?
Très bonne question. Parce qu'il a pris feu.
S'il n'avait pas pris feu, est-ce que le palais des marchands existerait encore ?
Certainement oui. Tous les autres bâtiments de cette époque sont encore présents à Angers, comme les Galeries Lafayette ou bien l'Hôtel des Postes. Mais l'histoire en a décidé autrement pour le bazar angevin et tout s'est passé en une seule après-midi.
Il est 12h30 ce samedi 21 novembre 1936. À Angers, le temps est clair. Monsieur Mondin quitte son bureau et ferme la grille des galeries à clé, avant d'aller manger. Monsieur Mondin, c'est le propriétaire directeur du Palais des Marchands. Si la galerie faisait route seule dans les années 1880, elle doit aujourd'hui faire face à deux problèmes. D'abord la concurrence, car en 1930, beaucoup d'autres commerces ont repris le concept du bazar. Mais aussi, la vétusté des bâtiments qui se font un peu vieux. Des projets de rénovation sont à l'étude pour permettre au palais des marchands de rester dans la course. Et c'est certainement ce qui occupe l'esprit de Monsieur Mondain, ce 21 novembre 1936, en partant déjeuner. Pendant ce temps, au 78 rue Baudrière, Alphonse Roy est déjà à table avec toute sa petite famille dans le salon de leur appartement. Il est midi 55 et l'appétit se satisfait à chaque bouchée. Comme d'habitude, les rues sont calmes à cette heure-là. Mais quelque chose vient perturber le repas de Monsieur Roy. Il aperçoit à travers la vitrine d'un marchand de meubles une lueur rougeâtre qui se déplace jusqu'à un casier à vêtements. Il comprend vite qu'un incendie se déclare dans le palais et se précipite dehors pour alerter les pompiers. Il est 13h01 et Alphonse Roy n'aura que le temps de remonter dans son appartement récupérer tous ses proches. Le palais des marchands s'embrase violemment et soudainement en propageant les flammes à toutes les maisons des rues voisines. Monsieur Mondain n'aura bientôt plus à se soucier de son projet de rénovation.
Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie ?
C'est justement sur cette question que le commissaire Dagonet va se pencher pendant plusieurs semaines. J'ai pu me procurer une copie du rapport d'enquête pour construire l'intrigue de mon histoire. Tu peux y jeter un coup d'œil si tu veux, mais je préfère te prévenir, l'ombre d'un doute subsiste encore dans cette affaire.
Clic-clac s'empare du rapport du commissaire du 2e arrondissement et commence sa lecture.
En qualité de commissaire du 2e arrondissement d'Angers concernant l'incendie du palais des marchands de la rue Baudrière ayant entraîné la mort de Madame Véron et d'importants dégâts matériels sur le dit palais, mais aussi sur un grand nombre d'habitations des rues Saint-Lô, Baudrière, Cupif et Jules Ferry, je suis en mesure de vous livrer les conclusions suivantes en ce 27 novembre 1936. Selon les premiers témoignages recueillis, Monsieur Alphonse Roy a alerté les pompiers à 13h01 le samedi 21 novembre. La dernière personne à avoir quitté le palais serait Monsieur Mondain, directeur et propriétaire de la galerie. D'autres témoins corroborent les dires de Monsieur Roy et affirment que le feu se serait déclaré depuis un casier à vêtements avec pour origine probable un court-circuit. M'étant moi-même rendu sur place avec les sapeurs-pompiers, à l'endroit supposé du départ de l'incendie, je n'ai pu que constater un amas de ruines inexploitables, sans aucune ressource pour conclure l'enquête. Une chose est sûre, l'incendie s'est propagé dans la rue Baudrière, par la devanture de la modiste Madame Bordillon, qui affirme avoir vu les flammes envahir la rue tant elles étaient puissantes. Monsieur Mondain a été interrogé afin d'éclaircir son emploi du temps avant de quitter la galerie, ce qui permet de le disculper, d'autant plus que sa femme assure qu'il était présent à déjeuner au moment du drame. Cette affaire me semble donc n'être qu'un malheureux concours de circonstances qui aura détruit l'une des plus belles et anciennes galeries d'Angers à cause d'un circuit électrique défectueux.
Le Palais des Marchands se targuait déjà en 1900 d'être parmi les seuls bâtiments d'Angers à pouvoir éclairer jour et nuit ses vitrines. L'installation électrique était donc bien présente et en 1936, certainement vétuste comparée aux normes actuelles. Voilà qui suffit amplement à justifier l'incendie du 21 novembre. Mais une autre hypothèse développée par Célestin Moreau, le romancier, ouvre un peu plus le champ à l'intrigue policière.
L'intrigue de mon roman est de supposer que Rémy Mondain aurait délibérément provoqué un court-circuit à cet endroit, favorisant un début d'incendie pour profiter d'une indemnité d'assurance.
Tout ceci n'est bien sûr que spéculation, et l'image de ce grand entrepreneur angevin ne doit pas se ternir de telles fantaisies. Ces suppositions imaginaires ne servent que d'appui à l'invention d'un récit fictif. En sortant du café de la Grappe d'Or, Clic-clac se retrouve pile face à H&M et Fleur d'Eau. Et dans l'effervescence de la rue Plantagenet, il se dit que...
L'histoire fait parfois des bonds. Elle se met en pause quand les circonstances lui demandent de le faire. Et elle reprend son cours normal bien des années plus tard. Quand les mémoires ont déjà oublié les événements d'une autre époque. Stop it !
Chronique écrite et réalisée par Pierre Benoît. Merci à François Milon du site de Papy Louis pour sa précieuse participation. Merci à Sophie pour la voix de Clic-Clac. À Manon de Radio Campus de s'être prêtée au jeu. Merci aussi à Jean-Denis d'avoir un prénom aussi cool que le mien. Et merci à tous les fidèles auditeurs des chroniques qui, de par vos nombreux retours, m'encouragent à poursuivre et à gagner en qualité. Rendez-vous lundi dans deux semaines à 13h sur le 101.5. Topette!